La parole est à vous par Bernard Stéphan. Bonjour Bernard.
Bonjour, bonjour Serge Mérilloux.
Bonjour.
Serge Mérilloux, vous êtes sénateur socialiste de la Dordogne, membre du groupe socialiste de la Haute Assemblée. Vous êtes également conseiller départemental du canton de la Linde. Et vous avez été maire de Sainte-Agne, une commune rurale proche de la Linde, de 1989 à 2020. Serge Mérilloux, dans votre actualité récente, il y a eu le congrès du Parti Socialiste. Comment ça va ?
Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait tellement aller plus mal. Alors, moi j'ai coutume de dire que le Parti Socialiste est un vieux parti démocratique, et cela signifie que la ligne politique du Parti Socialiste est arrêtée avant chaque congrès par des motions, des courants. Aujourd'hui, on appelle ça des motions, des textes d'orientation qui sont soumis au vote des militants. Donc ça, c'est, j'ai toujours connu ça en 40 ans de Parti Socialiste. Et donc jusque-là, ça ne posait pas de problème. Sauf que, ce coup-ci, les deux textes sont arrivés quasiment à égalité. Et on ne sait pas réellement aujourd'hui qui a gagné, même si officiellement, c'est Olivier Faure qui a été désigné comme vainqueur. Le fait que le résultat ne soit pas aussi limpide que ça a créé quelques tensions. Bon, les tensions aujourd'hui sont en train de s'apaiser. Je pense qu'il y a plus de différence de forme que de fond.
Alors, dans l'histoire récente du parti, dans votre démarche, vous avez refusé l'alignement derrière LFI et vous avez soutenu la motion refondation, qui est, si on peut dire, la motion centriste entre la rupture avec Faure d'un côté et la ligne Faure de l'autre. Et au moment de l'élection du premier secrétaire, vous avez soutenu Nicolas Mayer-Rossignol. Est-ce que la rénovation du parti est possible ?
Moi, je le crois. J'ai toujours cette confiance dans la capacité pour le parti de se rénover. Je pense que ce que vous indiquez est effectivement une ligne de partage. Le positionnement par rapport à LFI, les deux textes, que ce soit Olivier Faure ou le texte porté par Nicolas Mayer-Rossignol, sont favorables à l'union de la gauche. Mais simplement, c'est la forme. C'est-à-dire que nous pensons qu'on doit avoir une gauche équilibrée, c'est-à-dire que le Parti Socialiste peut être parfaitement allié aux autres forces de gauche, mais nous refusons l'alignement tel qu'il est porté par Olivier Faure. Voilà, nous considérons que un grand parti, le parti de Jaurès, a capacité de pouvoir, lui aussi, peser dans cet accord à gauche sans être à la remorque de qui que ce soit.
Aux législatives, vous aviez soutenu en Dordogne les dissidents, ceux qui avaient refusé la bannière NUP, LFI NUPES, en fait. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui avaient soutenu les dissidents sont réintégrés dans le parti ?
Aux dernières informations, pas tous. J'ai l'impression que ceux qui se sont alignés derrière Olivier Faure ont été réintégrés. Pour les autres, pas tous.
Parce que j'ai vu, par exemple, en Dordogne, que le maire de Calès, M. Catus, qui avait été candidat dissident législatif sur la circonscription de Bergerac, a été réintégré.
Alors, je crois qu'il y a eu une suspension de 6 mois. Et tout dépend de la date à laquelle la suspension a été prononcée. Donc, vous avez un certain nombre qui ont pu être réalignés, les autres non. Réintégrés, les autres non. Moi, je pense que ça va se faire avec l'apaisement dans les jours ou les semaines qui viennent.
Je suis avec Serge Mérilloux, sénateur PS de la Dordogne. Serge Mérilloux, comment observez-vous l'initiative de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui veut lancer un mouvement social-démocrate anti-LFI ?
Alors, moi je la vois d'un bon œil, mais je suis pas d'accord sur la définition anti-LFI. LFI est une force, une des forces de gauche, incontestable, qui que ce soit au présidentiel, voire au législatif, a eu des beaux succès électoraux. Ça veut dire que, notamment chez les jeunes, il y a un certain écho à ce que porte LFI. Donc, je ne suis pas favorable, moi, à être contre LFI. Ce que je souhaite, je le répète, c'est pas d'être aligné derrière, mais c'est d'être allié et de pouvoir porter nos différences, qui sont quand même pas négligeables. Et l'initiative de Bernard Cazeneuve va dans ce sens, mais je pense qu'il va beaucoup plus loin. Lui ne voit pas d'un bon œil un accord possible avec LFI.
Serge Mériou, vous êtes, c'est un peu votre marque de fabrique, un militant de la ruralité, un défenseur des communes rurales. Vous êtes originaire du milieu rural et vous portez cette voix souvent au Sénat. Avec l'inflation, ne va-t-on pas vers l'impossible gestion des communes rurales et, je dirais, vers la dégradation des routes rurales, vers la dégradation du patrimoine communal ?
Et je crois que ça vaut pour les communes rurales et ça vaut pour l'ensemble des collectivités. Malheureusement, le département est confronté aussi à ce mur d'inflation. Et donc, il y a un vrai risque dans les communes de ne pouvoir consacrer à l'investissement ce qui est nécessaire pour maintenir au minimum. Le minimum, c'est la mobilité. On est dans le monde rural, on n'a pas des trains, on n'a pas d'autres éléments pour se déplacer que la route. La route, c'est un vrai marqueur de la ruralité. La dégradation des budgets peut entraîner une dégradation du réseau routier.
Et une dégradation du patrimoine.
Et oui, bien sûr, et une dégradation du patrimoine. On va avoir des budgets 2023 qui vont être extrêmement compliqués. Le coût de l'énergie est aussi une incompréhension chez les élus. Comment expliquer qu'en quelques mois, on passe d'une électricité qui était abondante et bon marché à une électricité rare et chère? Alors, ce n'est pas le phénomène de quelques mois. Mais comment expliquer, si ce n'est par la libéralisation du marché, que l'on ait une électricité qui soit multipliée par 300, augmentée de 300, 500, 800, 1000%? Ça, c'est inimaginable. Avec mes collègues, nous portons au Sénat, et je veux dire que sur la ruralité, on arrive à avoir aussi des visions avec d'autres partenaires politiques. On arrive à porter ce message qui est impossible à tenir.
Ruralité, c'est l'agriculture.
Oui.
Comment observez-vous la fermeture qui semble irrémédiable des fermes ? La paysannerie s'en va, les terres se regroupent ou sont abandonnées, les jeunes ne peuvent pas s'installer. Vous avez peut-être une réponse ? Vous avez été le co-auteur d'un rapport intitulé « La compétitivité de la ferme France ». Où elle est la compétitivité de la ferme France ?
Alors, j'ai effectivement fait ce rapport avec deux autres collègues, qui sera suivi probablement d'une proposition de loi pour faire un certain nombre, donc, de porter des améliorations. Aujourd'hui, le constat, il est de trois ordres. Le premier, c'est que la ferme France est en train de reculer. Baisse des exportations, augmentation massive des importations. Donc, on dépend de plus en plus de l'étranger pour un bien qui est extrêmement majeur, l'alimentation. Le deuxième point, c'est que les agriculteurs ne gagnent pas leur vie parce qu'on a des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés que dans les pays voisins. Et le troisième point, qui est à mon avis le plus important et probablement le plus injuste, c'est que, à part les catégories socio-professionnelles plus, qui, disons 30% des Français, qui peuvent, avec la baisse du pouvoir d'achat, se payer une alimentation de qualité, la montée en gamme, l'agrobio, les labels, une majorité des Français sont obligés d'acheter de l'alimentation qui provient de l'extérieur, des pays étrangers, et souvent de très mauvaise qualité, y compris sur le plan sanitaire. Et ça, cette injustice-là, c'est vers cela que, dans cette proposition de loi, on va essayer de se battre.
Et comment on fait pour permettre aux jeunes de s'installer ?
Si vous voulez, le premier élément, c'est le revenu. Aujourd'hui, on a des difficultés compte tenu des contraintes en termes économiques, en termes de prix qui pèsent sur les agriculteurs, puisqu'on est sur un marché mondial. L'agroalimentaire est un marché mondial dans lequel la France pèse de moins en moins. Et elle pèse de moins en moins parce qu'on a, à tous les niveaux, charges salariales. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut baisser les salaires, hein, je ne veux pas qu'on dise ça. Mais à tous les niveaux, les agriculteurs sont confrontés à des niveaux, à des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés que leurs voisins. La pomme de Pologne, elle est beaucoup moins chère que la pomme française. Et donc on arrache des vergers de pommes en Limousin. Le poulet français est malheureusement plus cher que le poulet qui vient du Brésil, etc. Et les coulis de tomates qui viennent de Chine. On pourrait en passer en revue, et ce n'est pas en une minute qu'on peut le faire. Mais là, il y a une vraie question. S'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'installations qui soient viables.
Une dernière question, on arrive à la fin. Je vous demande de répondre assez rapidement. Vous avez participé il n'y a pas longtemps à une mission dite de sécurisation de la chasse. J'ai regardé les chiffres. 1,1 million de permis de chasse, 35 millions de pratiquants de la randonnée pédestre et du VTT. Est-ce qu'un jour, il ne faudra pas partager l'usage du week-end dans la nature ?
Et je crois que c'est une fausse bonne idée. Parce qu'à ce moment-là, on va débiter en tranches la semaine. D'abord, les propriétaires d'espaces, essentiellement des propriétaires privés.
Pardonnez-moi, les randonneurs, ils marchent sur des chemins publics.
Oui.
Ils
ne
marchent pas dans des, dans des propriétés privées.
D'accord. Mais si vous voulez segmenter la semaine entre les vététistes, les marcheurs, les chasseurs, me paraît pas une bonne idée. On a donc fait un certain nombre de propositions, qui d'ailleurs ne plaisent pas toujours aux chasseurs, et qui devraient aller dans le sens de garantir une meilleure sécurité pour l'ensemble des usagers de la nature, et y compris les chasseurs, qui sont souvent les premières victimes de leurs propres accidents.
Alors on vous réinvite, dans un an pour un premier bilan.
Avec grand plaisir.
J'étais avec Serge Mérilloux, sénateur de la Dordogne. Merci.